pense que ça va aller. Alors, eh bien, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans un passage normalement que vous allez trouver, c'est Jean chapitre 3. Donc, je crois qu'il y a une grande partie d'entre vous qui allez être capable de géolocaliser Jean chapitre 3 dans vos Bibles. Même peut-être une partie qui saurait le réciter par cœur, peut-être Léonie, non? Donc Jean chapitre 3, ça commence par quoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans Jean chapitre 3? Je ne sais pas. Léonie, qu'est-ce qu'il y a dans Jean chapitre 3? Il y a Nicodème, c'est vrai. Puis il y a un verset qu'on connaît bien, enfin il y a beaucoup de versets qu'on connaît bien. Mais bon, je crois qu'on ne va pas se lasser de les lire, donc on va commencer Jean chapitre 3 à partir du verset 1. C'est bon, vous avez trouvé les filles devant? Oui? Donc, eh bien on va commencer à... Donc Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, mais tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est... que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, parce que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux. Et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Voilà, jusque-là, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions qu'elle nous éclaire, qu'elle nous donne la vie, Seigneur, qu'elle nous guide dans tes voies et dans tes sentiers, parce que tu es Dieu. Et nous sommes des hommes, tu es au ciel et nous sommes sur la terre. Et c'est nous qui avons besoin de toi, Seigneur, et non pas toi de nous, Seigneur. Nous voulons te remercier néanmoins de ce que tu es venu vers nous et tu t'es donné à nous, Seigneur. Et de ce que tu aimes vraiment notre compagnie, que nous soyons tes enfants, Seigneur. Même s'il ne te manque rien, Seigneur, toi, tu nous aimes et nous voulons te remercier pour ce grand amour, Seigneur. Amen. Amen. C'est donc un passage très, très connu, je crois. C'est peut-être le plus connu pour des chrétiens. À quel point est-ce que le monde autour de nous connaît ce passage? Bien, je crois quasiment pas, en tout cas en France. Dans d'autres pays, peut-être que les gens connaissent un peu ce passage. Mais je ne sais pas s'ils en connaissent la vérité nécessairement. Et donc, dans le contexte, il y a Nicodème, un chef des pharisiens, chef des juifs, qui vient voir Jésus. Et lui, il commence la conversation en disant, eh bien, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Jésus ne va pas du tout développer cette pensée, mais il va directement orienter la conversation vers autre chose. Et au verset 3, il lui dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Christ va orienter toute la conversation sur le besoin spirituel fondamental de l'être humain et sur le besoin spirituel de Nicodème. Il y a de bonnes chances, effectivement, nous avons de bonnes raisons de penser que l'homme à qui Christ a s'adressé, Nicodème, en dépit de toutes ses connaissances religieuses, en dépit de son instruction dans le judaïsme, son instruction dans le pharisaïsme, et en dépit d'une certaine bonne volonté, eh bien, il semble que, en dépit de toutes ces choses, il lui manquait l'essentiel, il lui manquait d'être né de nouveau. Et d'ailleurs, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Et il y a tout de suite là une incompréhension. Jésus lui parle d'une réalité spirituelle fondamentale, et Nicodème se dit, mais il est en train de me parler de rentrer dans le sein de ma mère et de naître. Et donc là, on voit l'incompréhension fondamentale qu'il y a entre Nicodème et entre Christ. Et Christ lui répondra, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et là encore, on peut se dire, eh bien, Christ ne répond pas totalement à la question, puisque Nicodème lui dit, d'accord, il faut naître de l'esprit, mais alors comment est-ce que cela peut se faire? Et Christ lui dit, eh bien, tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Mais on pourrait se dire qu'il ne répond pas directement à la question. Il n'est pas entré dans un grand débat. Eh bien, tu comprends, il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Dieu. Alors il faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une union qui se passe entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. On pourrait avoir l'impression, encore une fois, Christ ne répond pas à la question. En tout cas, il ne s'embarque pas dans de grands discours métaphysiques, comme nous, peut-être, nous aurions été tentés de le faire. Mais Christ va orienter cette fois la conversation vers autre chose. Il va l'orienter, eh bien, vers sa mort à la croix. Et c'est certainement là qu'est la réponse. Comment est-ce que l'on peut découvrir le royaume de Dieu? Comment est-ce qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu? Eh bien, ça n'est pas forcément en ayant une grande connaissance métaphysique ou une grande connaissance théologique, mais c'est en regardant à Jésus-Christ. Et Christ n'est pas entré dans toutes sortes de débats, mais il a tourné ses regards, eh bien, vers la croix et vers le fait qu'il devait mourir. Et nous lisons ça, nous le savons bien, au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça le secret d'une naissance qui vient d'en haut, d'un changement de vie. Eh bien, cela se passe quand on regarde à Jésus-Christ. Ça ne se passe pas quand on regarde en nous-mêmes, ça ne se passe pas quand on regarde à côté de nous, ou même quand on désespère de nous-mêmes. Quelquefois, on peut désespérer de nous-mêmes et de ce que nous avons fait. Mais le salut arrive quand on regarde à Jésus-Christ. On peut être très triste de notre sort, très triste de ce que nous avons fait dans notre vie. Nous pouvons peut-être avoir envie de faire toutes sortes de choses, de monter au ciel, de nous lancer dans toutes sortes de pratiques religieuses ou autres. Mais le changement dont nous avons besoin, il se passe, eh bien, quand on regarde vers Jésus-Christ, quand on tourne les regards vers lui. Et peut-être, c'est votre cas ce matin, vous vous lamentez sur votre situation, vous vous lamentez sur vos péchés, vous vous lamentez sur ce que vous avez raté dans votre vie, et vous vous dites, mais comment est-ce que je pourrais plaire à Dieu? Eh bien, il y a une seule manière et une unique manière de plaire à Dieu, eh bien, c'est en regardant à Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre qui plaise vraiment à Dieu, si ce n'est que l'on regarde à Jésus-Christ. Et quand on regarde à Jésus-Christ, eh bien, on est sauvé. On est parfaitement sauvé, on est entièrement sauvé, et on est sauvé pour l'éternité. On n'a pas besoin de faire autre chose, on n'a pas besoin de faire de grandes choses, on n'a même pas besoin d'être baptisé, ni par immersion, ni en tant qu'enfant. On n'a même pas besoin d'être baptisé. La seule chose qui compte pour Dieu, c'est que l'on regarde à Jésus-Christ. Si l'on est baptisé sans regarder à Jésus-Christ, eh bien on est perdu. On est perdu pour l'éternité. Si on regarde à nous-mêmes au lieu de regarder à Jésus-Christ, on est perdu pour l'éternité. Si l'on pense pouvoir faire quelque chose au lieu de regarder à Jésus-Christ, eh bien on est perdu, perdu pour l'éternité, parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui sauve, et il n'y a que Jésus-Christ qui a porté tous nos péchés. Les péchés ne sont jamais tombés dans une urne baptismale, qu'elle soit petite pour un bébé ou qu'elle soit grande pour un adulte. Les péchés ne sont jamais tombés là-dedans. Les péchés du monde sont tombés sur Jésus-Christ. C'est lui qui a porté nos péchés et notre iniquité. On peut regarder dans le psaume, dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Et après dans le psaume 22. Ésaïe 53. Il nous est dit à partir du verset 1. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si vous voulez que le châtiment qui donne la paix reste sur vous, bien vous serez perdu pour l'éternité. Mais si vous acceptez le simple fait que le châtiment de Dieu qui donne la paix est tombé sur Christ, eh bien vous serez sauvé pour l'éternité. Soit ce châtiment est sur nous, soit il est sur Christ. Et il faut faire le choix, soit de le garder sur nous, même à travers toutes nos meilleures œuvres, ou soit de reconnaître que c'est Christ qui l'a porté. Qu'est-ce que vous voulez? Que ce châtiment soit sur vous, ou est-ce que vous acceptez qu'il ait été pris par Jésus-Christ? Dans le psaume 22, Christ s'écrit, au psaume 22, psaume 22, au verset 8, il nous est dit, c'est Christ qui parle à travers la bouche de David, prophétiquement. Il dit, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. » Et c'est exactement ce qui s'est passé à la croix, et c'est ce qu'Ésaïe a dit aussi. Ils n'ont fait de lui aucun cas. Ils ont dit, « Mais qui est cet homme qui vient de Nazareth, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Eh bien, c'est justement ce que Christ ne devait pas faire, c'était descendre de la croix. Si Christ était descendu de la croix, s'il avait rendu le mal pour le mal, s'il avait, au lieu de se faire agresser, s'il avait rendu l'agression pour l'agression, eh bien, nous serions perdus. Mais Christ n'est pas descendu de la croix. Il a porté notre châtiment, il a porté nos iniquités et il les a portées jusqu'au bout. Et c'est ce que Nicodème ne comprenait pas et c'est ce qu'il était venu apprendre en venant à Jésus-Christ ce jour-là. Christ lui a dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi est-ce que Moïse a élevé ce serpent dans le désert? Vous savez, il y a cet épisode dans l'Exode, après qu'Israël soit sorti d'Égypte, eh bien, ils ont désobéi. Et ils ont désobéi encore. Et ils ont encore désobéi. Et ils ont encore et toujours désobéi. Et Dieu leur a envoyé des jugements. Et parmi ces jugements, il y avait ces serpents qui les mordaient et desquels ils mouraient. Et pour arrêter cette plaie, eh bien Moïse a fait, sur l'ordre de Dieu, un serpent d'airain. Et toute personne qui regardait à ce serpent, eh bien, avait la vie sauve. Et il y a vraiment là un symbole de ce qui était annoncé dans la Bible et de ce qui était annoncé depuis le livre de la Genèse, quand Dieu avait dit à Ève, « Eh bien, le serpent te mordra le talon, mais toi, tu lui écraseras la tête. » Et c'est ce que Christ a fait à la croix. Il a écrasé la tête du serpent, il a écrasé la tête de notre ennemi, de celui qui pouvait nous emporter avec lui. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il fallait que Christ soit élevé, qu'il porte cette condamnation, qu'il soit fait, même l'apôtre Paul ira jusqu'à dire qu'il soit fait péché pour nous. Non pas que Christ ait péché de quelconque manière à la croix, mais il a tellement été identifié avec ce péché, il a tellement subi cette malédiction à notre place, eh bien, que Paul dit, il a été fait péché pour nous. Il a été fait péché pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait péché pour nous. C'est ce que Paul dira. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez ce matin cette vie éternelle. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez cette vie éternelle? Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que Christ a goûté la mort pour tous. Et je ne sais pas si vous, pour votre part, vous avez goûté la vie éternelle. Christ a goûté quelque chose pour vous. Il a goûté la mort pour vous. Est-ce que vous, pour votre part, vous avez goûté la vie éternelle, la vie qui vient de Dieu? Peut-être vous l'avez goûté. La Bible dit aussi, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Peut-être vous l'avez goûté et vous vous dites, mais moi je ne veux pas venir à la lumière parce que je ne veux pas que mes œuvres soient dévoilées, parce que je ne veux pas qu'on me fasse de reproches. Mais Dieu ne vous demande pas, à ma connaissance, même s'il nous demande un changement de vie, je ne crois pas que Dieu vous demande de ce que vous nous dévoiliez vos œuvres. Peut-être ce matin, vous avez des œuvres que vous voulez garder cachées, que vous voulez garder pour vous. Eh bien, je serais très content si vous les gardez pour vous. Je serais ravi si vous les gardez pour vous. Enfin, en tout cas, que vous ne les partagiez pas avec moi. Mais la Bible nous dit que l'on doit partager les choses avec Dieu. Parce que Dieu est notre Créateur. Il est notre Père éternel. Il est celui qui nous aime. Et il veut que nous lui dévoilions les choses. Alors peut-être qu'il veut aussi que vous les dévoiliez à une personne en particulier. Peut-être à une personne à qui vous avez fait du tort. Ou peut-être surtout à une personne à qui vous avez pleinement confiance. Mais Dieu, à ma connaissance, ne demande pas que l'on fasse un étalage public. Il demande qu'on suive à ce que son esprit nous dise de faire. Quoi qu'il en soit, il est certain que quand on vient à Christ, quelle que soit la personne dans qui on se confie en dehors de Dieu, il est certain que l'on vient à la lumière. Il est certain qu'on change de vie. Il est certain qu'on a besoin de confesser certaines choses et surtout de les confesser à Dieu. Quiconque, voilà, celui qui agit selon la vérité, je vais reprendre un peu plus haut, nous est dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Si vous reconnaissez ce matin que vos œuvres sont mauvaises, vous avez déjà accompli un grand pas. C'est que Dieu vous a déjà éclairé. Vous savez que vos œuvres sont mauvaises. Mais que vous ayez le courage de venir à la lumière, de venir devant Dieu et de lui dire, Seigneur, je sais que mes œuvres sont mauvaises. Je sais aussi que j'ai besoin que tu mettes ta lumière dessus pour qu'elle soit abandonnée, pour que je les délaisse. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Est-ce que vous voulez, à partir d'aujourd'hui, que vos œuvres soient faites en Dieu? Peut-être avant aujourd'hui, vous faisiez des œuvres, mais vos œuvres étaient faites sans Dieu. Et c'est là tout le problème. Soit on peut faire des œuvres avec Dieu, soit on peut faire des œuvres sans Dieu. Si on fait des œuvres sans Dieu, elles sont inutiles. Elles sont à côté de ce que Dieu demande. Il y a même peut-être certaines œuvres, certaines bonnes œuvres qui combattent Dieu, qui égarent les personnes, qui égarent loin de Dieu. Celui qui fait des œuvres pour plaire à Dieu, qui s'invente un Dieu un peu à son image, ou celui qui va en pèlerinage, je ne sais pas où que ce soit, quel que soit le pèlerinage, j'en nommerai aucun. Si c'est un pèlerinage à Canterbury, vous savez, en Angleterre, il y a des personnes qui font, alors peut-être plus maintenant, mais qui avant faisaient le pèlerinage à Canterbury sur la tombe de Saint Thomas Becket. Eh bien, cela faisait des œuvres à côté de la volonté de Dieu, et tous ceux qui les suivaient, eh bien, s'égaraient en faisant des œuvres. Ils pensaient faire quelque chose de bien, mais finalement, c'était quelque chose d'inutile, quelque chose qui égarait. On peut parler de ce pèlerinage, parce que je crois qu'il n'est plus trop pratiqué, et puis on risque pas de vexer beaucoup de personnes. Mais c'est ça, si on fait des œuvres sans Dieu, peut-être, à vue humaine, elles ont une utilité. Mais il est aussi possible que ces bonnes œuvres, utiles, dans une certaine mesure, eh bien finalement, égarent loin de Dieu. Qu'elles égarent loin de Dieu. Oui, sur la terre, elles ont leur utilité. Mais dans l'éternité, eh bien, elles font passer à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, Dieu nous l'a bien dit dans ce passage, eh bien, c'est de regarder à Jésus-Christ. De regarder à Jésus-Christ parce qu'il est le sauveur du monde. Parce qu'il est le seul qui a porté nos péchés. Et il n'y en a pas d'autre qui a porté nos péchés. Personne d'autre a porté nos péchés. Personne d'autre a porté nos iniquités. Il est le seul qui a subi le châtiment de Dieu. Et la Bible nous demande juste de regarder à Jésus-Christ. Alors, eh bien, peut-être nous pourrions chanter un cantique, simplement. Un cantique qui s'appelle, alors, soit, si on le connaît, on va le chanter. Si on ne le connaît pas, peut-être j'en lirai simplement les paroles. Et un cantique qui s'appelle « Lève les yeux vers Christ ». Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais dans les ailes de la foi, je ne sais pas si vous l'avez ici, mais c'est simplement ce que Dieu nous invite à faire, à lever les yeux vers Christ, à regarder vers lui, à comprendre que lui, il est entièrement suffisant, et que lui, il n'est pas vaincu, qu'il est vainqueur, qu'il a tout reçu sur lui. Nous n'avons plus besoin de recevoir quoi que ce soit, il a tout reçu sur lui, et il attend que l'on croit en lui, qu'on vienne à lui.